Le journal de George Fox, 1673-1676, en Hollande, et retour page 1 entre ce moment et la foire. Ma femme arriva du nord à Bristol avec son gendre Thomas Lowe et deux de ses filles. Son autre gendre, John Rose, William Penn et sa femme, ainsi que Gerard Robert, vinrent de Londres et beaucoup d'amis de diverses régions du pays, vinrent aussi à la foire, et nous y eûmes de glorieuses réunions pleines de puissance, car la puissance et la vie infinie du Seigneur dominaient toutes choses. À la lumière des ouvertures nouvelles, je fus poussé à déclarer les trois états et les trois maîtres. Dieu fut le premier maître de l'homme et de la femme au paradis, et tant qu'ils demeurèrent fidèles à son enseignement et sous son autorité, ils restèrent dans l'image de Dieu, dans sa ressemblance, dans la justice et la sainteté, et dans la domination sur tout ce que Dieu avait créé, dans l'état bienheureux, dans le paradis de Dieu. Mais lorsqu'ils prêtèrent l'oreille aux faux enseignements du serpent, qui était hors de la vérité, désobéirent à Dieu et obéirent au serpent, en se nourrissant de ce que Dieu avait défendu, ils perdirent l'image de Dieu, la justice et la sainteté, tombèrent sous la puissance de Satan et furent chassés du paradis, sortant de l'état bienheureux pour entrer dans l'état maudit. Alors la promesse de Dieu fut que la semence de la femme écraserait la tête du serpent, briserait sa puissance sous laquelle l'homme et la femme étaient tombés, et détruirait ses œuvres. Ainsi se trouvaient ici trois états et trois maîtres. Dieu fut le premier maître au paradis, et tant que l'homme demeura sous son enseignement, il fut heureux. Le serpent fut le deuxième maître, et lorsque l'homme suivit son enseignement, il tomba dans la misère, dans la chute hors de l'image de Dieu, de la justice et de la sainteté, et hors de la puissance qu'ils avaient sur tout ce que Dieu avait créé, y compris le serpent. Christ Jésus fut le troisième maître, de qui Dieu dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le », et qui lui-même dit « Apprenez de moi ». Voilà le véritable maître de l'Évangile, qui écrase la tête du serpent, le faux maître. Le serpent est la tête de tous les faux maîtres et de toutes les fausses religions, des fausses voies, des faux cultes et des fausses églises. Christ écrase la tête du serpent, Christ qui dit « Apprenez de moi », et dit « Je suis le chemin vers Dieu, je suis la vérité, je suis la vie et la vraie lumière ». Ainsi, lorsque l'homme et la femme remontent de nouveau vers Dieu, et sont renouvelés dans son image, dans la justice et la sainteté par Christ, ils entrent dans le paradis de Dieu, l'état où l'homme était avant sa chute, et dans un état plus élevé, à savoir s'asseoir en Christ, lui qui n'est jamais tombé. Maintenant Christ Jésus dit « Apprenez de moi », et Dieu dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, en qui je suis bien content ». Ainsi donc, le Fils de Dieu doit être écouté en toutes choses, lui qui est le Sauveur et le Rédempteur, qui a donné sa vie et a acheté ses brebis de son précieux sang. Nous pouvons défier le monde entier, quiconque a quelque chose à dire contre notre voix, contre notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Prophète que Dieu a suscité, et que nous devons écouter en toutes choses. Qui a quelque chose contre notre berger, Christ Jésus, qui nous conduit et nous nourrit, et dont nous connaissons la voix céleste, qui a quelque chose contre notre évêque, dans la bouche duquel on n'a jamais trouvé de tromperie, et qui veille sur nous dans son pâturage de vie, afin que nous ne nous égarions pas hors de son troupeau. Qui a quelque chose contre notre prêtre, Christ Jésus, élevé au-dessus des cieux, qui nous donne gratuitement et nous commande de donner gratuitement. Qui a quelque chose à dire contre notre guide et conseiller, Christ Jésus, qui n'a jamais péché, mais qui est saint, sans malice et séparé des pécheurs. Dieu nous a commandé de l'écouter, et lui a dit « Apprenez de moi », et si nous devions désobéir au commandement de Dieu et de Christ, nous serions comme notre père Adam et notre mère Ève, qui désobéirent au commandement de Dieu et prêtèrent l'oreille à l'enseignement du serpent. Les hommes commandent, et voudraient nous contraindre à écouter les mercenaires, qui plaident pour le péché et pour le corps de mort jusqu'à la tombe, doctrine qui a le goût de l'enseignement du diable, non de celui de Christ. Mais nous sommes résolus à écouter le Fils comme le Père et lui l'ordonne, et en écoutant le Fils, nous écoutons aussi le Père, comme l'Écriture en rend témoignage. Car l'Épître aux Hébreux dit « Dieu, qui, à diverses reprises et de diverses manières, a parlé autrefois au Père par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par son Fils. » Remarquez ceci, Dieu nous a parlé à ses apôtres, disciples et églises par son Fils. Et alors que certains ont objecté que, bien que Christ ait parlé à ses disciples et aux Juifs au jour de sa chair, pourtant depuis sa résurrection et son ascension il ne parle plus maintenant, la réponse est les Juifs ne pouvaient pas entendre alors sa voix céleste, et ceux qui disent être chrétiens, mais qui aujourd'hui sont dans la même nature que les Juifs d'alors, ne le peuvent pas davantage. Mais les disciples de Christ, qui apprirent de lui, eux entendaient sa voix alors et l'entendent maintenant. Après que Christ fut ressuscité, Christ parla à l'apôtre Paul et au reste des disciples, y compris à Jean, lorsqu'il écrivit son Apocalypse. Et l'apôtre dit aux Hébreux, « Prenez garde de ne pas refuser celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui ont refusé celui qui parlait sur la terre, à plus forte raison n'échapperons-nous pas, si nous nous détournons de celui qui parle du ciel, eux qui négligèrent et résistèrent à Moïse, et qui moururent sur le témoignage de deux ou trois témoins. Quiconque résistait à la loi de Moïse, qui parlait sur la terre, mourait sans miséricorde, c'était une mort naturelle. Mais ceux qui, maintenant, négligent celui qui parle du ciel négligent leur salut. C'est pourquoi, tant qu'on l'appelle encore aujourd'hui, ne négligez pas d'entendre sa voix. Ceux qui négligent d'entendre sa voix tant qu'on l'appelle aujourd'hui endurcissent leur cœur. Hébreux 3:15. L'apôtre dit que Dieu, à diverses reprises et de diverses manières, a parlé à nos pères par les prophètes, mais en ces derniers jours, Dieu nous a parlé par son Fils. Remarquez, il nous a parlé par son Fils. C'est pourquoi Jean dit dans l'Apocalypse que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apoc 2:7. Et il est dit que Christ parle du ciel. Hébreux 12:25. Que tous remarquent donc bien ces trois états et ces maîtres. Le Dieu de vérité fut le premier maître, tandis que l'homme était au paradis et dans l'innocence. Le serpent fut le deuxième maître, le faux maître, qui, par son faux enseignement, en vint à être le Dieu du monde, qui gît dans la méchanceté. Christ Jésus, qui écrase la tête du serpent, est le troisième maître qui dit « Apprenez de moi », de qui Dieu dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je suis bien content, écoutez-le », et de qui le témoignage des saints d'autrefois fut « Que Dieu, en ces derniers jours, nous a parlé par son Fils ». Ce même Dieu qui parla à Adam et Ève au paradis comme homme et femme, revient pour être reçu de nouveau dans son image. Dieu est de nouveau celui qui parle par son Fils, qui ne change pas, gloire à son nom à jamais. Beaucoup de choses profondes et précieuses furent révélées dans ces réunions, par l'Esprit éternel qui sonde et dévoile les choses profondes de Dieu. Après avoir achevé mon service pour le Seigneur dans cette ville, je partis pour le Gloucestershire, où nous eûmes beaucoup de grandes et précieuses réunions, et la puissance éternelle du Seigneur se répandait sur tous. Du Gloucestershire je passai dans le Wiltshire, où nous eûmes aussi beaucoup de réunions bénies. À Slatenford, dans le Wiltshire, nous eûmes une très bonne réunion, bien que nous rencontrâmes une forte opposition de la part de certains, qui s'étaient dressés contre les réunions de femmes, réunions que le Seigneur me poussa à recommander aux amis, pour le bien de l'Église de Christ. Ainsi, afin que les femmes fidèles, appelées à croire la vérité, rendues participantes de la même foi précieuse et héritières du même évangile éternel de vie et de salut que les hommes, puissent de la même manière parvenir à la possession et à la pratique de l'ordre de l'Évangile. Là, elles peuvent être des aides pour les hommes dans la restauration, dans le service de la vérité et dans les affaires de l'Église, comme elles le sont extérieurement dans les choses civiles ou temporelles. Ainsi, toute la famille de Dieu, femmes aussi bien qu'hommes, pourrait connaître, posséder, accomplir et remplir ses charges et services dans la maison de Dieu. De cette manière, les pauvres pourraient être mieux pris en charge, les plus jeunes instruits, renseignés et enseignés dans la voie de Dieu, les personnes dissolues et indisciplinées reprises et averties dans la crainte du Seigneur, la probité de ceux qui proposent le mariage examinée plus étroitement et plus rigoureusement dans la sagesse de Dieu, et tous les membres du corps spirituel, l'Église, pourraient veiller les uns sur les autres et s'être utiles dans l'amour. Après que ses opposants se furent livrés à beaucoup de querelles et de disputes, la puissance du Seigneur terrassa l'un de leurs principaux chefs, Nathan Coleman, au point que son esprit s'affaissa et qu'il prit conscience du mal qu'il avait fait en s'opposant à la puissance céleste de Dieu. Il confessa son erreur devant les amis et écrivit ensuite un papier de condamnation, dans lequel il déclara qu'il s'était volontairement opposé, bien que je l'eusse souvent averti de prendre garde, jusqu'à ce que le feu du Seigneur brûlât en lui, et qu'il vit l'ange du Seigneur, l'épée tirée à la main, prêt à le retrancher. Je lui dis que s'il sentait le pardon du Seigneur, auquel il s'était opposé dans sa puissance et dans la possession que son peuple en avait, je lui pardonnais moi aussi librement. Alors il vint à moi et m'offrit son service pour aider à l'établissement des réunions de femmes, mais je lui dis d'attendre jusqu'à ce qu'il sente une rémission par la puissance du Seigneur, car le Seigneur n'avait nul besoin de lui dans l'état où il se trouvait. Nous eûmes là une réunion bénie, lorsque la réunion des femmes fut établie, dans la puissance bénie de Dieu, tous les héritiers de cette puissance prirent possession de l'Évangile et de son ordre. Mais Coleman et d'autres, alors qu'ils s'opposaient aux réunions de femmes, me demandèrent si ce n'était pas un commandement de Dieu qu'un homme doive dominer sur sa femme, et qu'ainsi il dominerait sur elle, et l'apôtre n'a-t-il pas dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, alors où lisons-nous qu'il y ait des femmes anciennes et des femmes disciples ?» Il dit aussi que c'était un abus envers les anciens que d'établir une réunion de femmes. Je leur dis que lui et les autres n'étaient anciens que dans la chute, dominant sur leurs femmes dans la chute, mais qu'ils ne devaient pas dominer sur les veuves, les jeunes femmes non mariées et les femmes d'autres hommes. Je lui montrai que Dorcas était une disciple et que l'apôtre avait commandé que les femmes âgées soient enseignantes de bonnes choses pour les jeunes femmes. Bien que l'apôtre ait dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme », comme le dit aussi la loi, car Ève fut la première transgresseresse, et que de tels enseignements, comme Ève enseignant son mari, usurpaient l'autorité sur l'homme, ce qui est interdit, mais l'apôtre dit aussi que les filles et les servantes prophétiseraient ce qu'elles firent, tant au temps de la loi qu'au temps de l'Évangile. L'homme et la femme avaient été des aides l'un pour l'autre avant de tomber hors de l'image de Dieu, de la justice et de la sainteté, et ils doivent de nouveau être des aides l'un pour l'autre, par la restauration de l'homme et de la femme par Christ Jésus. Je dis que sa domination sur sa femme et sa qualité d'ancien étaient encore dans la chute, car il était encore dans la transgression, et qu'il n'était pas un ancien dans l'image de Dieu, ni dans sa justice et sa sainteté, telles qu'elles étaient avant la transgression, mais qu'après que l'homme et la femme ont été restaurés à l'image de Dieu, ils redeviennent des aides l'un pour l'autre, dans la domination sur tout ce que Dieu a créé. Malgré l'opposition qui se manifesta à la réunion, ce fut une réunion très bonne et utile, car il y eut l'occasion de répondre à leurs objections et arguties, et de mettre en lumière les services des femmes dans et pour l'Église. À cette réunion, les réunions de femmes pour ce comté furent établies dans la puissance bénie de Dieu. Après cela, je me rendis à Molbe et j'y tins une réunion, à laquelle vinrent quelques magistrats qui furent courtois et modérés. Puis, passant chez Bansolemieu Mélin, j'y tins une réunion très précieuse. De là, je me rendis un peu au-delà d'Or, où nous eûmes une très grande et bénie réunion, comme nous en eûmes aussi peu après à la frontière du Hampshire. Ensuite, en allant vers l'Oxfordshire, nous visitâmes les amis là-bas, puis nous allâmes à Reading où nous eûmes une grande réunion. De là, passant dans le Buckinghamshire, nous eûmes beaucoup de réunions précieuses dans ce comté. Après quoi, nous visitâmes les amis jusqu'à Kingston-upon-Thames, où ma femme et sa fille Rachel me rejoignirent. Je ne restai pas longtemps à Kingston, mais j'allai à Londres où je trouvai les baptistes et les sociniens, avec quelques anciens apostats, qui étaient devenus fort insolents et avaient imprimé de nombreux livres contre nous, de sorte que j'eus un grand travail dans la puissance du Seigneur avant de pouvoir quitter cette ville. Mais béni soit le Seigneur, sa puissance vint sur eux, et tous leurs livres mensongers, méchants et diffamatoires furent réfutés. Je fis un court voyage dans quelques régions de l'Essex et du Middlesex, visitant les amis à leurs réunions et leurs enfants dans les écoles, puis je revins bientôt à Londres. Après quelques services parmi les amis, je retournai à Kingston, puis de là chez Stephen Smith dans le Surrey, où il y eut une très grande réunion, plusieurs centaines de personnes y assistant. Je restai dans ces contrées jusqu'à ce que je me sois acquitté du service que le Seigneur m'avait donné à y faire, puis je revins par Kingston à Londres, où je sentais mon esprit attiré. J'avais entendu dire que de nombreux amis avaient été traduits devant les magistrats et beaucoup emprisonnés, tant à Londres que dans d'autres régions du pays, pour avoir ouvert les vitrines de leurs boutiques les jours saints et les jours de jeûne, comme on les appelle, et pour avoir rendu témoignage contre toute telle observance des jours. Les amis ne pouvaient pas observer ces jours, sachant que, puisque les vrais chrétiens n'observaient pas les jours saints des Juifs au temps des apôtres, nous ne pouvions pas non plus observer les jours saints, ainsi appelés des païens et des papistes, qui ont été instaurés parmi ce qu'on appelle chrétiens depuis les jours des apôtres. Car nous avons été rachetés hors des jours par Christ Jésus, et introduits dans le jour qui s'est levé d'en haut, et nous sommes venus en celui qui est Seigneur du sabbat juif et la substance des signes des Juifs. Après être resté quelque temps à Londres, travaillant à obtenir quelques soulagements et quelques facilités pour les amis dans cette affaire, j'allai avec ma femme et sa fille Rachel à Hendon, dans le Middlesex, puis de là chez William Penn à Rickmansworth dans l'Hertfordshire où Thomas Lowe, qui avait épousé une autre des filles de ma femme, vint le lendemain pour nous accompagner dans notre voyage vers le nord. Après y avoir visité les amis, nous passâmes chez un ami près d'Aylesbury, puis de là chez Brett Doyle à Adbury dans l'Oxfordshire, où le premier jour, nous eûmes une grande et précieuse réunion. Comme la vérité s'était bien répandue et que les amis de ces contrées avaient beaucoup augmenté en nombre, deux ou trois nouvelles réunions furent alors établies dans cette région. Le soir, tandis que j'étais assis au souper, je sentis que j'étais conduit en prison, pourtant je n'en dis rien à personne alors. Mais au matin, en partant, nous voyageâmes dans le Worcestershire et allâmes chez John Ralph d'Armscoe, dans la paroisse de Tradington, où nous eûmes une très grande et précieuse réunion dans sa grange, la présence puissante du Seigneur étant éminemment avec nous et parmi nous. Après la réunion, quand la plupart des amis furent partis, comme j'étais assis dans le salon à converser avec quelques amis, Henry Park, un juge de paix, vint à la maison, et avec lui Roland, un prêtre de Uniton, dans le Warwickshire. Ce juge eut connaissance de la réunion par une femme amie, qui était nourrice d'un de ses enfants. Elle demanda la permission à sa maîtresse d'aller à la réunion pour me voir. La maîtresse en parla à son mari, et le mari et le prêtre complotèrent ensemble de disperser la réunion et de m'appréhender. Cependant, ils s'attardèrent longtemps au dîner, car c'était le jour où son enfant avait été aspergé au baptême. Ils ne vinrent donc qu'une fois la réunion terminée et la plupart des amis partis. Mais même s'il n'y avait plus de réunion quand ils arrivèrent, Henry Pock m'arrêta, puisque c'était moi qu'il visait, et arrêta aussi Thomas Lehe pour être en ma compagnie. Et bien qu'il n'eût rien pour nous accuser, il nous envoya tous deux à la prison de Wooster par une sorte étrange de mandat d'écrou, dont une copie suit ici. Aux constables de Tradington, dans le dit comté de Wooster, et à tous les constables et daisniers des divers hameaux et villages au sein de la dite paroisse de Tradington, ainsi qu'aux gardiens de la prison du comté de Wooster. On m'a présenté une plainte, moi qui suis l'un des juges de paix de Sa Majesté pour le comté de Wooster, selon laquelle, dans la paroisse de Tradington, en ce comté, il y a eu récemment plusieurs réunions de nombreuses personnes, jusqu'à 400 personnes et plus à la fois, prétendant exercer une religion autre que celle établie par les lois d'Angleterre. Et certains d'entre eux étaient des enseignants venus du Nord et d'autres provenaient de régions éloignées du royaume, réunion qui peut nuire à la religion réformée et établie, et qui peut s'avérer préjudiciable à la paix publique. Et il m'a semblé qu'il y avait eu une telle réunion, comme sus dit, au nombre de 200 environ, à Armscough, dans la paroisse de Tradington, et que George Fox de Londres et Thomas Lehe de la paroisse de Creed, dans le comté de Cornouailles, étaient présents à la réunion, et que George Fox était un enseignant ou orateur à la réunion. Et puisqu'aucun compte-rendu satisfaisant de leur résidence ou lieu d'établissement ne m'est apparu, et puisque le dit George Fox et Thomas Lehe ont refusé de garantir leur comparution aux prochaines sessions de paix à tenir pour le comté, afin de répondre de la violation des lois communes d'Angleterre et de toute autre matière qui pourrait être alléguée contre eux, les présents ordonnent donc, au nom de Sa Majesté, qu'ils soient conduits à la prison du comté de Wooster, et qu'ils y soient gardés en sûreté jusqu'à ce qu'il en soit délivré. Daté du 17 au jour de décembre, la 25e année du règne de Sa Majesté sur l'Angleterre, Henry Pock ainsi fait prisonnier, sans aucune apparence probable d'être libéré avant, au plus tôt, les sessions trimestrielles, nous obtînmes que quelques amis accompagnent ma femme et sa fille vers le nord, et nous fûmes conduits à la prison de Wooster. D'où, au moment où je pensais que ma femme aurait pu arriver chez elle, je lui écrivis la lettre suivante. Chère âme, tu semblais un peu affligée lorsque je parlais des prisons, et quand j'ai été pris, sois contente de la volonté du Seigneur Dieu. Car lorsque j'étais chez John Roos à Kingston, j'eus la vision de mon arrestation, et lorsque j'étais chez Bray Doyley, dans l'Oxfordshire, assis au souper, je me vis être pris, et je vis que j'avais une souffrance à endurer. Mais la puissance du Seigneur est au-dessus de tout, béni soit son saint nom à jamais. George Fox, après avoir passé quelque temps en prison, nous jugeâmes approprié d'exposer notre cas à Lord Wince, Lord Lieutenant du Worcestershire, ainsi qu'au lieutenant adjoint et aux autres magistrats, ce que nous fîmes par la lettre suivante. Ceci est pour vous informer, Lord Lieutenant ainsi appelé, les lieutenants adjoints et les juges du comté de Worcestershire, combien peu chrétiennement et inhumainement nous avons été traités par Henry Pock, juge ainsi appelé, lors de notre voyage vers le nord. Nous sommes arrivés chez notre ami John Ralford, le 17e jour du 10e mois 1673, quelques amis nous y avaient conduits, et d'autres vinrent nous y visiter. Vers le soir, le juge arriva, accompagné d'un prêtre nommé Rowland I, de Uniton, dans le Warwickshire, et ils exigèrent nos noms et lieux de résidence. Et bien que nous ne fussions pas dans une réunion, mais en conversation lorsqu'eux entrèrent, il dressa un mandat d'écrou pour nous envoyer à la prison de Wooster. Il dit, dans son mandat, qu'on lui avait présenté une plainte concernant plusieurs réunions passées de plusieurs centaines de personnes à la fois, nous n'en savons rien, et ne pensons pas que cela nous concerne. Et lorsqu'il dit plus loin, qu'aucun compte rendu satisfaisant de notre établissement ou lieu de résidence ne lui est apparu, et il se contredit lui-même dans son mandat, y mentionnant les lieux de notre demeure et résidence, dont nous lui donnâmes un compte rendu satisfaisant et complet. Et l'un de nous, Thomas Lehe, lui dit qu'il descendait avec sa belle-mère, qui est la femme de George Fox, et avec sa sœur, pour ramener sa propre femme et son enfant du Nord dans son propre pays. Et l'autre, George Fox, lui dit qu'il accompagnait sa femme dans son voyage vers le Nord, elle qui avait été à Londres pour rendre visite à l'une de ses filles qui venait d'accoucher. Et ayant reçu un message de sa mère, une femme âgée du Leicestershire, qui désirait ardemment le voir avant de mourir, il avait l'intention, dès qu'il aurait accompagné sa femme dans son voyage jusqu'à Causal, dans le Warwickshire, de se rendre dans le Leicestershire pour visiter sa mère et ses parents, puis de revenir à Londres. Mais en interrompant notre voyage, en prenant le mari à sa femme, le fils à sa mère et à sa sœur, la mère de Fox ne se vécut pas au choc d'apprendre que son fils avait été de nouveau emprisonné, et en l'empêchant de visiter sa femme et son enfant si éloignés, nous fûmes forcés de recourir à des étrangers, ou à qui nous pouvions, pour les aider dans leur voyage, à notre grand dommage et entrave. Nous demandâmes au prêtre si c'était là son évangile, et leur manière d'accueillir des étrangers. Et nous demandâmes au juge de considérer si cela revenait à faire comme il voudrait qu'on lui fît, mais il répondit « Je l'ai dit et je le ferai ». Et lorsqu'il dit « Nous avons refusé de donner caution ». Il ne demanda caution qu'à George Fox, qui répondit « Je suis un homme innocent et je ne connais aucune loi que j'ai enfreinte ». Mais il ne demanda rien à Thomas Lowe, comme si c'eût été crime et motif suffisant d'écrou qu'il fût venu de Cornouailles. Si nous avions été à une réunion, comme il le dit dans son mandat, il aurait pu procéder autrement qu'en nous envoyant en prison pour répondre d'une infraction aux lois communes, bien qu'il ne nous ait montré aucune infraction, comme on peut le voir dans le mandat. Nous avons jugé bon de vous exposer la substance de ces procédures contre nous, espérant qu'il paraîtra en vous plus de modération et de justice envers nous, afin que nous puissions poursuivre le voyage que nous avons entrepris. George Fox, Thomas Lowe, mais nous ne reçûmes pas la libération de notre confinement par notre demande à Lord Wince, ainsi appelé. Et bien que Thomas Lowe reçut plusieurs lettres de son frère, le D.R. Lowe, qui était l'un des médecins du roi concernant sa liberté, et une de Henry Saville qui faisait partie de la chambre du roi, à son frère sollicitant Lord Wince en sa faveur, pourtant, comme cela ne concernait que sa libération non la mienne, si grand était son amour et son estime pour moi qu'il ne voulut pas rechercher sa liberté à lui seul, et garda la lettre par devers lui sans l'envoyer. Ainsi nous demeurâmes prisonniers jusqu'aux prochaines sessions générales trimestrielles de paix. À ce moment-là, divers amis, de différents lieux, qui se trouvaient en ville, s'adressèrent au juge à notre sujet. Ils parlèrent favorablement et dirent que nous devrions être libérés. Car beaucoup de juges semblaient désapprouver la sévérité de la procédure de Pock contre nous et déclarèrent leur répugnance à nous piéger par la proposition des serments. Quelques amis avaient aussi parlé à Lord Wince, qui dit également qu'il parlait favorablement, de sorte que l'opinion générale était que nous serions libérés. Nous entendîmes aussi que le D.R. Lowe avait obtenu une lettre du colonel Sands à Londres, adressée à certains juges en notre faveur. Certains juges dirent aussi à quelques amis de nous conseiller de parler peu au tribunal, de peur de provoquer quelqu'un sur le banc, et ainsi ils feraient en sorte que nous soyons libérés. Nous ne fûmes appelés que le dernier jour des sessions, qui était le 21e jour du 11e mois 1673. Quand nous entrâmes, ils furent saisis de pâleur au visage, et il se passa un certain temps avant que quoi que ce soit fût dit, si bien qu'un boucher dans le rôle dit « Quoi, ont-ils peur, les juges n'osent-ils pas leur parler ?» Enfin, avant de nous parler, le juge Pock fit un long discours sur le banc, dans un sens très semblable à ce qui était contenu dans le mandat d'écrou, mentionnant souvent les lois communes, mais sans citer aucune que nous aurions enfreinte. Ajoutant qu'il pensait qu'il était plus doux de nous envoyer tous deux en prison que de faire subir à ses voisins la perte de 200 livres, qu'ils auraient dû payer s'il avait fait exécuter la loi contre les conventicules, assemblées religieuses illégales. Mais en cela, il était suéliquel, suéliqui, suéliquebé, suélico très ignorant, soit très trompeur, car puisqu'il n'y avait pas de réunion lorsqu'il vint, et personne pour informer, il n'avait aucune preuve pour nous condamner, ni pour condamner ses voisins. Quand Pock eut terminé son discours, les juges commencèrent par Thomas Lowe, qu'ils interrogèrent sur la raison de sa venue dans ce pays, il leur en donna un récit complet et clair. Parfois, je glissais un mot pendant qu'ils l'interrogeaient, et alors ils me dirent qu'ils procédaient à son interrogatoire. Quand ce serait mon tour, j'aurais pleine liberté de parler, car ils ne m'en empêcheraient pas, mais j'aurais tout le temps nécessaire, et ils ne nous tendraient pas de piège. Lorsqu'ils en eurent fini avec lui, ils me demandèrent le récit de mon voyage, que je leur donnai, comme mentionné plus haut mais plus en détail. Et aussi comme le juge Pock, pour aggraver l'affaire, avait fait grand tapage qu'il y avait à la maison, lorsque je fus pris, des gens venus de Londres, du Nord, de Cornouailles et de Bristol. Je lui dis, c'était, pour ainsi dire, une seule famille. Car il n'y avait de Londres que moi-même, du Nord que ma femme et sa fille, de Cornouailles que mon gendre Thomas Lowe, et de Bristol, aucun hormis un ami marchand de cette ville. Il nous rencontra par hasard, et put aider ma femme et sa fille dans leur voyage de retour, lorsque, par notre emprisonnement, elles furent privées de notre compagnie et de notre aide. Quand j'eus parlé, le président, dont le nom était Simpson, un vieux presbytérien, dit « Votre récit est très innocent ». Puis lui et Pock chuchotèrent quelque temps ensemble, après quoi le président se leva et dit « Vous, M. Fox, êtes un homme célèbre, et tout cela peut être vrai, comme vous l'avez dit ». Mais afin que nous soyons mieux satisfaits, voulez-vous prêter les serments d'allégeance et de suprématie ? Je leur dis, vous avez dit, nous ne vous tendrons pas de piège, mais ceci est un piège évident, car vous savez que nous ne pouvons prêter aucun serment. Néanmoins, ils firent lire le serment, et lorsqu'ils eurent fini, je leur dis que je n'avais jamais prêté serment de ma vie, mais que j'avais toujours été fidèle au gouvernement, que j'avais été jeté en prison à Derby et y avait été détenu 6 mois parce que je ne voulais pas prendre les armes contre le roi Charles à la bataille de Worcester, et que pour être allé aux réunions, j'avais été emmené hors du Leicestershire et conduit devant Oliver Cromwell comme un comploteur pour ramener le roi Charles. « Et vous savez, dis-je, dans vos consciences que nous, le peuple appelé Quakers, ne pouvons prêter serment ni jurer en aucun cas, parce que Christ l'a interdit. Mais quant à la matière ou substance contenue dans ces serments, je peux et je dis ceci, je reconnais et confesse le roi d'Angleterre comme héritier légitime et successeur du royaume d'Angleterre, et j'aborde tout ce complot et comploteur et machination contre lui, et je n'ai dans le cœur que de l'amour et de la bienveillance pour lui et pour tous les hommes, et je désire sa prospérité et la leur, le Seigneur le sait, devant qui je me tiens comme un homme innocent. Et quant au serment de suprématie, je renie le pape, sa puissance et sa religion, et je les aborde tout mon cœur. Pendant que je parlais, il criait « Donnez-lui le livre ». Je dis « Le livre dit, ne jurez point du tout ». Alors ils crièrent « Emmenez-le, geôlier », et tandis que je continuais de parler, ils pressaient le geôlier en criant « Emmenez-le, nous allons avoir une réunion ici. Pourquoi ne l'emmenez-vous pas, ce garçon ?» voulant dire le geôlier aime l'entendre prêcher. Alors le geôlier m'entraîna, et comme je me détournais d'eux, j'étendis le bras et dis « Que le Seigneur vous pardonne, vous qui me jetez en prison pour avoir obéi à la doctrine de Christ. » Ainsi, ils rompirent manifestement leurs promesses au vu du pays, car ils avaient promis que j'aurais pleine liberté de parler, mais maintenant ils ne me l'accordaient pas, et ils avaient promis qu'ils ne nous tendraient pas de piège, pourtant ils me proposaient les serments exprès pour me piéger. Après qu'on m'eut emmené, Thomas Lowe fut retenu derrière au tribunal, et ils lui dirent « Vous êtes libre ». Alors il essaya de raisonner avec eux, leur demandant « Pourquoi ne pourrais-je pas être mis en liberté comme lui, puisque nous avons été pris ensemble et que notre cas est semblable ?» Mais ils lui dirent qu'ils ne l'entendraient pas, disant « Allez à vos affaires, car nous n'avons plus rien à vous dire, puisque vous êtes libérés. » C'est tout ce qu'il obtint d'eux. Ainsi, après l'ajournement du tribunal, il alla leur parler dans leur chambre, désirant savoir quel motif ils avaient de retenir son père, puisqu'il l'avait libéré, lui, et leur souhaitant de considérer si ce n'était pas de la partialité et une tâche pour eux. À ce moment-là, Simpson le menaça en disant « Si vous n'êtes pas content, nous vous proposerons les serments aussi, et nous vous enverrons auprès de votre père. » À quoi il répondit « Il pourrait le faire s'il le jugeait bon, mais qu'il l'envoie ou non, il avait l'intention d'aller attendre son père en prison, car c'était désormais là son affaire dans ce pays. » Alors le juge Park lui dit « Pensez-vous, M. Le, que je n'avais pas de raison d'envoyer votre père et vous en prison ?» Quand vous aviez une réunion si grande que le pasteur de la paroisse s'est plaint à moi d'avoir perdu la plus grande partie de ses paroissiens, si bien que lorsqu'il vient parmi eux, il ne lui en reste presque aucun dans sa congrégation. « J'ai entendu dire, répondit Thomas Lowe, que le prêtre de cette paroisse vient si rarement visiter son troupeau une fois, peut-être, ou deux par an, pour ramasser ses dîmes, que ce n'était que charité de la part de mon père d'aller visiter un troupeau si délaissé et abandonné. » Vous n'aviez donc aucune raison d'envoyer mon père en prison pour les avoir visités, ou pour les avoir enseignés, instruits et dirigés vers Christ, leur véritable maître, eux qui avaient si peu de consolation ou de bénéfices de leur prétendu pasteur, qui ne vient parmi eux que pour chercher son profit financier de sa charge. Là-dessus, les juges se mirent à rire, car il semble que le Dr Crowdy, le prêtre dont il parlait, était alors assis parmi eux, bien que Thomas Lowe ne le connût pas. Et il eut l'esprit de se taire et de ne pas entreprendre de se justifier en une matière notoirement connue comme vraie. Mais après que Thomas Lowe les eut quittés, les juges tourmentèrent tellement le Dr Crowdy à ce sujet, qu'il en fut misérablement honteux et si importuné qu'il menaça d'intenter un procès à Thomas Lowe devant le tribunal de l'évêque pour diffamation. Lorsque Thomas Lowe l'apprit, il lui fit dire qu'il répondrait à son procès, qu'il le commence quand il voudrait, et Thomas dit qu'il produirait toute sa paroisse comme témoignage contre lui. Cela refroidit le docteur. Pourtant, quelque temps après, il vint à la prison, prétendant qu'il avait envie de discuter avec moi et de parler avec Thomas Lowe de cette affaire, et il en amena un autre avec lui, lui-même étant un officier de l'église à Worcester. Lorsqu'il entra, il me demanda « Pourquoi êtes-vous en prison ? Ne le savez-vous pas ?» lui dis-je. « N'étiez-vous pas sur le banc, lorsque le juge Simpson et Park m'ont proposé le serment ?» Et n'y avez-vous pas pris part ? Alors il dit, il est permis de jurer, et Christ n'a pas interdit de jurer devant un magistrat, mais seulement de jurer par le soleil et choses semblables. Je lui dis de le prouver par les Écritures, mais il ne le put pas. Alors il invoqua cette parole de Paul, tout m'est permis, 1 Cor 6:12. Et si, dit-il, tout lui était permis, alors jurer lui était permis ? Par cet argument, dis-je, vous pouvez aussi affirmer que l'ivrognerie, l'adultère et toutes sortes de péchés et de méchancetés sont aussi permis, de même que le serment. Pourquoi, dit le DR Crowdé, tenez-vous l'adultère pour illicite ? Oui, dis-je, je le tiens pour illicite. Eh bien alors, dit-il, cela contredit la parole de saint Paul. Alors j'appelai les prisonniers et le geôlier, afin qu'ils entendent quelle doctrine le DR Crowdé avait avancée comme orthodoxe, que l'ivrognerie, le serment, l'adultère et de telles choses étaient permises. Alors il dit qu'il le donnerait de sa main, et il prit une plume, mais écrivit autre chose que ce qu'il avait dit. Puis, se tournant vers Thomas Lowe, il lui demanda s'il répondrait à ce qu'il avait écrit là. Thomas s'en chargea. Au moment où il avait menacé Thomas Lowe de le poursuivre devant le tribunal de l'évêque pour avoir parlé si abusivement, comme il l'appelait de lui devant les juges, et que Thomas lui avait dit d'aller de l'avant quand il lui plairait, car il lui répondrait et amènerait ses paroissiens comme preuve contre lui, le DR Crowdé était parti dans une grande agitation, grommelant en lui-même en s'en allant. Quelques jours après, Thomas Lowe lui envoya une réponse au papier qu'il avait écrite et laissé, réponse qu'un ami de Woust lui porta, il la lut et dit qu'il y répondrait, mais il ne le fit jamais, bien qu'il lui ait souvent fait dire qu'il le ferait. Extrait des passages de la vie et des écrits de William Penn, Penn parlant. La troisième fois que je vins à la cour, ce fut en 1673, ne l'ayant pas fréquenté depuis 5 ans. Qui m'y conduisit fut l'emprisonnement de ce serviteur de Dieu, mon dit ami George Fox, au château de Woust, le motif, adorer Dieu d'une manière autre que celle de l'Église d'Angleterre. Et de peur que cette accusation ne se révélât trop faible pour le retenir, les juges de paix qui avaient ordonné son incarcération lui proposèrent officieusement les serments d'allégeance et de suprématie, non pour qu'il les prête, mais parce qu'il était presque certain qu'il ne les prêterait pas, comme piège supplémentaire pour satisfaire leur humeur et à compte. Cela se terminant par une prémunir, et voyant qu'aucune démarche dans le pays n'était susceptible de réussir pour le délivrer des mains de certaines personnes très irritées et obstinées, il fut décidé parmi nous à Londres de le faire transférer par habeas corpus devant la cour du ban du roi, et de voir ce que nous pourrions faire à la cour pour obtenir sa libération. Il m'échut d'aller faire cette démarche, dans laquelle William Mead m'accompagna. Après quelques mots que je dis en introduction de l'affaire, je remis au duc d'York notre requête. Il la parcourut, puis nous dit qu'il était contre toute persécution pour cause de religion. Qu'il était vrai que, dans sa jeunesse, il avait été ardent, surtout lorsqu'il pensait que des gens s'en servaient comme prétexte pour troubler le gouvernement, mais qu'il avait mieux vu et mieux considéré les choses, et qu'il était pour faire aux autres ce qu'il voudrait que les autres lui fassent, et qu'il pensait que le monde serait heureux si tous étaient de cet avis, car il était sûr, dit-il, qu'aucun homme ne voulait être lui-même persécuté pour sa propre conscience. Il ajouta qu'il nous regardait comme un peuple paisible et industrieux, et que, bien qu'il ne fût pas de notre opinion, il aimait notre bonne conduite, et beaucoup d'autres choses allant dans le même sens, promettant qu'il parlerait à son frère le roi, et ne doutait pas que le conseil du roi ne reçoive des ordres en faveur de notre ami. Moi et mon compagnon parlâmes, lorsque l'occasion s'en présenta, pour recommander à la fois notre affaire et notre caractère, mais d'autant moins qu'il nous devança, comme je l'exprimais. Lorsqu'il eut terminé cette affaire, il voulut bien prendre une attention toute particulière à mon égard, tant en raison des liens que mon père avait eus avec son service dans la marine, que de l'attention qu'il avait promis de lui témoigner à mon endroit en toute occasion. Il s'étonnait que je ne lui eusse pas rendu visite et que chaque fois que j'aurais une affaire là, il ordonnerait que j'aie accès, après quoi il se retira et nous revînmes. Ce fut ma première visite à la cour après 5 années de retraite, et tel en fut le succès, et la première fois que je lui parlais depuis 1765. Qu'il m'en fût agréable, n'avait rien d'étonnant, et peut-être pour certains, ce fut le commencement de mes fautes à la cour. La lettre suivante à George Fox fut écrite peu après l'entretien rapporté ci-dessus, cher George Fox. Votre cher et tendre amour, dans votre dernière lettre, je l'ai reçue, et quant à votre affaire, voici un grand seigneur, homme d'esprit noble, s'est pour ainsi dire, mis de bonne grâce en peine d'obtenir votre liberté. Il a obtenu du roi un pardon, mais que nous avons refusé. Ensuite, il a insisté pour une délivrance plus noble, qui répondit mieux à la vérité. Il a réussi, et a obtenu du roi sa signature pour un acte de mise en liberté. Il est entre les mains du Lord Keep, et nous avons usé, et usons encore, de toute l'influence dont nous disposons. Le roi est en colère contre lui, le Lord Keep, et promet très largement et avec beaucoup d'affection, ainsi si nous avons été trompés, vous en voyez les raisons. Mais depuis 10 jours, nous avons recherché un bref d'erreur, et nous sommes tout près d'une résolution aussi certaine que possible, et un habeas corpus a été délivré, ou le sera demain soir. Mon cher amour vous salue, vous et votre chère épouse. Les choses vont bien pour la vérité dans ces contrées, grande conviction parmi le peuple. Le tendre amour de mon époux est pour vous tous. Je languis et j'espère, avant longtemps, vous voir. Ainsi, cher George Fox, je suis William Penn George Fox ayant été amené, par un bref de habeas corpus devant la cour du ban du roi, ce Matthew Hall le relâcha par proclamation. Peu après les assises, le terme approchant, Un habeas corpus fut envoyé à Worcester pour que le shérif m'amène à la barre du banc du roi. À cette époque, le sous-shérif ayant fait de Thomas Lowe son adjoint pour me conduire à Londres, nous partîmes le 29e jour du 11e mois 1673 et arrivâmes à Londres le 2e jour du 12e mois, les chemins étant très enfoncés et les eaux hautes. Le lendemain, avis fut donné que j'avais été amené et il fut ordonné au shérif de me produire au tribunal. J'y allai en conséquence et comparus devant le juge Wilde, et lui comme les avocats furent assez équitables, de sorte que j'eus le temps de parler, d'établir clairement mon innocence et de montrer l'injustice de mon emprisonnement. Après que le retour du bref eut été enregistré, il fut ordonné qu'on me ramène au tribunal le lendemain, l'ordonnance de la cour étant la suivante: Worcester, le roi contre George Fox, jeudi, le lendemain du lendemain de la purification de la Bienheureuse Vierge Marie, la 26e année du règne du roi Charlie. Le défendeur ayant été amené ici au tribunal, en vertu d'un bref de habeas corpus ad subjiciand, etc., sous la garde du shérif du comté susdit, il est ordonné que le retour de L. habeas corpus soit déposé et que le défendeur soit remis au maréchal de cette cour pour y être gardé en sûreté jusqu'à, sur requête de M. G. Strode, par la cour. En conséquence, j'y allai le matin et marchai dans le hall jusqu'à ce que le shérif vînt à moi, car il me faisait confiance pour aller où je voulais. Et comme il était tôt, nous entrâmes dans la cour du banc du roi et nous assîmes parmi les avocats pendant près d'une heure jusqu'à l'entrée des juges. Alors le shérif m'ôta mon chapeau et après un moment on m'appela. La présence du Seigneur était avec moi, et je sentais sa puissance dominer toute chose. Je demeurai debout et écoutai l'avocat du roi, nommé John, qui, en vérité, parla fort bien en ma faveur, tout comme un autre conseil après lui, et les juges, au nombre de trois, furent tous très modérés, ne prononçant à mon égard aucune parole blessante. Je demeurai tranquille dans la puissance et l'esprit du Seigneur, voyant comment le Seigneur était à l'œuvre, et comment la terre aidait la femme. Mais quand ils eurent terminé, je m'adressai au Lord juge en chef, demandant que je puisse parler, et il dit que je le pouvais. Alors je rapportai la cause de notre voyage, la manière dont nous avions été pris et écroués, et la durée de notre emprisonnement jusqu'aux sessions, avec un bref récit de notre procès aux sessions, et de ce que j'avais offert alors au juge de paix, comme déclaration que je pouvais faire ou signer, à la place des serments d'allégeance et de suprématie. Quand j'eus fini, le Lord juge en chef dit que je devais être renvoyé au banc du roi et que le shérif de Worcester devait être déchargé de moi. Il dit aussi qu'ils examineraient cela plus avant et que s'ils trouvaient quelque erreur dans le dossier ou dans la procédure des juges de paix, je serais remis en liberté. On appela donc un huissier pour me prendre sous sa garde et il me remit au gardien du banc du roi qui me laissa aller chez des amis où je logeai et fixa un rendez-vous pour me retrouver le lendemain chez Edward Mann à Bishopsgate Street. Mais ensuite, le juge Pock ou quelques autres de mes adversaires fit une démarche auprès de la cour pour que je fusse renvoyé à Worcester. On fixa donc un autre jour pour une nouvelle audience et ils eurent quatre avocats qui plaidèrent contre moi. George Strode, avocat, plaida pour moi et plaidait déjà avant que je fusse amené au tribunal, mais ils le firent taire et obtinrent des juges le jugement que je serais renvoyé aux sessions de Worcester. Seulement, ils me dirent que je pouvais fournir caution pour comparaître aux sessions et pour être de bonne conduite entre-temps. Je dis aux quatre juges que je n'avais jamais prêté serment et n'avais jamais été de mauvaise conduite de toute ma vie, et qu'ils pouvaient aussi bien me proposer le serment là que de m'envoyer à Worcester pour y être pris au piège par les juges de paix en me proposant le serment, puis en me frappant de prémunir. Je leur dis que, si je rompais mon oui ou mon non, j'acceptais de subir les mêmes peines que ceux qui rompent leur serment. On pensa que ce changement d'avis des juges à mon sujet venait de quelque fausse information que mon adversaire, le juge Pock, avait donnée contre moi. Car entre le temps de ma première comparution et celle-ci, le juge Pock avait répandu une histoire très fausse et malveillante, qu'il y avait avec moi beaucoup d'hommes considérables, venus de diverses parties du royaume lorsqu'il m'avait pris, et que nous avions un dessein ou un complot, et que Thomas Lowe était resté avec moi en prison longtemps après avoir été libéré, pour poursuivre notre dessein. On en parlait tant au Parlement que, si je n'avais pas été amené à Londres quand je le fus, j'aurais été arrêté à Worcester et Thomas aurait été écroué là avec moi. Mais bien que ces mensonges aient été aisément réfutés et exposés à la honte de Pock, les juges ne modifièrent pas leur dernière sentence et me renvoyèrent à la prison de Worcester. Une seule faveur fut accordée, que je puisse redescendre par mes propres moyens et à mon aise, pourvu que je sois là sans faute pour les assises, qui devaient commencer le deuxième jour du deuxième mois suivant. Je restai à Londres, et aux environs jusqu'à la fin du premier mois 1674, puis je redescendis tranquillement, car je ne pouvais supporter des voyages rapides et pénibles, et arrivé à Oust le dernier jour du premier mois 1674, la veille de l'arrivée des juges en ville. Le deuxième jour du deuxième mois, on me mena de la prison à une auberge près du Reul, afin que je sois prêt si l'on m'appelait. Mais comme on ne m'appela pas ce jour-là, le geôlier vint le soir et me dit que je pouvais rentrer chez moi, entendant par là la prison. Gérard Robert, de Londres, était avec moi, et nous redescendîmes ensemble à la prison sans gardien. Le lendemain, m'ayant amené de nouveau, ils mirent un petit garçon d'environ 11 ans pour être mon gardien. J'appris que le juge Pock et le greffier de la paix avaient donné ordre qu'on ne m'inscrive pas au rôle, afin que je ne sois pas présenté au juge. Je fis intervenir le fils du juge au tribunal, pour que l'on m'appelle, sur quoi l'on m'appela et je fus amené à la barre devant le juge Turné, mon vieil adversaire, qui m'avait proposé les serments et m'avait déjà frappé de prémunir à l'encasté. Après être resté en silence, il me demanda ce que je désirais. Je répondis, « Ma liberté selon la justice ». Il dit, « Je vous impose le serment » et demanda si je le prêterais. Je demandai qu'il voulût bien entendre la manière dont j'avais été pris et écroué, et comme il se taisait, je lui en fis le récit comme expliqué précédemment. Je lui dis aussi que, depuis mon emprisonnement, j'avais appris que ma mère, femme âgée et tendre, qui avait désiré me voir avant de mourir, ayant entendu que j'avais été arrêté et emprisonné en voyage, de sorte qu'il était peu probable que je puisse aller la voir, en fut si frappée qu'elle mourut peu après, ce qui me fut très dur. Lorsque j'eus fini de parler, il me demanda de nouveau de prêter les serments. Je lui dis que je ne pouvais prêter aucun serment par scrupule de conscience, et que je croyais que lui et tous les autres savaient en leur conscience que c'était pour conscience que je ne pouvais jurer en aucune façon. Je déclarai devant eux ce que je pouvais dire et ce que je pouvais signer, reconnaissant le droit du roi au gouvernement, et niant le pape et son prétendu pouvoir, et tous les comploteurs, complots et conspirations contre le gouvernement. Certains pensèrent que le juge avait envie de me remettre en liberté, car il voyait qu'il n'avait rien de juste contre moi, mais Pock, qui m'avait fait arrêter, s'efforça de l'exciter contre moi, lui disant que j'étais un meneur, que beaucoup dans le royaume me suivaient, et qu'il ne savait pas ce que cela pouvait devenir, avec bien d'autres paroles envieuses que certains remarquèrent. Ils observèrent aussi que le juge ne lui répondit pas un mot. Toutefois, le juge, voulant se décharger, me renvoya, moi et mon affaire, aux sessions une fois encore, en enjoignant au juge de paix d'en finir là, et de ne plus importuner les assises à mon sujet. Ainsi je demeurai prisonnier, principalement semble-t-il par le moyen du juge Pock, qui en cette affaire était aussi faux qu'envieux, car il avait promis à Richard Canon de Londres qui le connaissait, qu'il s'efforcerait d'obtenir ma liberté, ou pourtant il fut le pire ennemi que j'eusse au tribunal, comme certains de la cour l'observèrent et le rapportèrent. D'autres juges de paix furent très bienveillants et promirent que j'aurais la liberté de la ville et que je pourrais loger chez un ami jusqu'aux sessions, ce que j'obtins effectivement, et le peuple fut très civil et respectueux à mon égard. Entre ce moment et les sessions, j'eus quelques services pour le Seigneur auprès de plusieurs qui vinrent me visiter. Une fois, trois prêtres non conformistes et deux avocats vinrent s'entretenir avec moi, et l'un des prêtres entreprit de prouver que les Écritures sont la seule règle de vie. Après avoir réfuté sa preuve, j'eus une occasion convenable de leur montrer l'usage juste et approprié des Écritures, leur service et leur excellence. Je leur montrai aussi que, un, l'Esprit de Dieu, donné à chacun pour en tirer profit, et de la grâce de Dieu qui apporte le salut, qui est apparu à tous les hommes, et qui enseigne à ceux qui lui obéissent à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre sobrement, justement et pieusement dans le présent siècle, que ces deux-là constituent la règle la plus appropriée, la plus juste et la plus universelle que Dieu ait donnée à toute l'humanité pour régler, diriger, gouverner et ordonner leur vie. Une autre fois, un prêtre du livre de la prière commune et quelques autres personnes vinrent s'entretenir avec moi. Il me demanda si j'étais parvenu à la perfection. Je lui dis, « Ce que je le suis par la grâce de Dieu. » Il répondit que c'était une réponse modeste et civile. Puis il invoqua les paroles de Jean, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. » Il me demanda ce que j'en disais. Je dis avec le même apôtre, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous. » Lui, Jésus, est venu détruire le péché et ôter le péché. Ainsi, il y a un temps où les gens voient qu'ils ont péché, et un temps où ils voient qu'ils ont du péché, et un temps pour confesser leur péché et l'abandonner, et pour connaître le sang du Christ qui purifie de tout péché, 1 Jean 1, 7. Alors on demanda au prêtre si Adam n'était pas parfait avant sa chute, et si toutes les œuvres de Dieu n'étaient pas parfaites. Le prêtre dit qu'il pouvait y avoir une perfection telle qu'Adam l'avait, et une chute hors de celle-ci. Mais je lui dis qu'il y a une perfection en Christ au-dessus d'Adam, et au-delà de toute chute, et que c'était l'œuvre des ministres du Christ de présenter tout homme parfait en Christ, et que pour ce perfectionnement, ils recevaient leur don du Christ. Col 1, 28, F4, 11, 13. Par conséquent, quiconque nie la perfection ni l'œuvre du ministère et les dons que le Christ a donnés pour le perfectionnement des saints. Éph 4:11-13. Le prêtre dit : Nous devons toujours lutter. Je répondis que c'était une lutte triste et sans consolation que de lutter en croyant que nous ne vaincrions jamais. Je lui dis aussi que Paul, qui s'écriait à cause du corps de mort, rendait aussi grâce à Dieu, qui lui donnait la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Cor 15:57. Ainsi, il y a un temps de s'écrier faute de victoire et un temps de louer Dieu pour la victoire. Et Paul dit : Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le prêtre dit : Job n'était pas parfait. Je lui dis : Dieu dit que Job était un homme parfait et qu'il fuyait le mal. Job 2:3. Et le diable fut forcé de confesser que Dieu avait mis une haie autour de lui. Job 1:9-10, laquelle n'était pas une haie extérieure, mais la puissance invisible et céleste. Le prêtre dit : Job a dit : Il charge ses anges de folie et les cieux ne sont pas purs à ses yeux. Je lui dis que c'était son erreur, ce n'était pas Job qui avait dit cela, mais Eliphaz qui contestait contre Job. Eh bien, mais dit le prêtre, que dites-vous de ce passage, l'homme le plus juste qui pêche 7 fois par jour, astérisque, pourquoi en vérité dis-je, je dis qu'il n'existe pas de tel passage, et là-dessus, le prêtre eut la bouche close. Bien d'autres services j'ai avec diverses sortes de personnes entre les assises et les sessions. Astérisque, le prêtre épiscopalien cite de travers, car le juste tombe 7 fois et se relève, mais les méchants tombent dans le malheur. Prov 24:16. Les prochaines sessions trimestrielles commencèrent le 29e jour du 2e mois, et je fus appelé devant les juges de paix. Le président s'appelait Street, il était juge du circuit gallois, et il me présenta, moi et mon affaire, de façon mensongère au comté, leur disant que nous avions tenu une assemblée à Treddington de toutes les parties du royaume pour terroriser les sujets du roi, et que, pour cela, nous avions été emprisonnés. Et que, pour éprouver ma fidélité, on m'avait proposé les serments, et, m'ayant laissé le temps d'y réfléchir, il me demandait si je voulais maintenant prêter les serments. Je demandai la liberté de parler pour moi-même, et l'ayant obtenu, je commençai d'abord par me disculper de ces faussetés dont il m'accusait, moi et les amis, déclarant que nous n'avions pas une telle réunion de toutes les parties du royaume comme il l'avait représenté, mais que, à l'exception de l'ami de la maison duquel nous venions, et qui était venu avec nous pour nous y guider, et d'un ami de Bristol qui était venu par hasard, ou plutôt par providence pour aider mon époux à rentrer, après notre arrestation, ce qui était vrai. Et nous ne nous réunissions d'aucune façon qui pût causer la terreur à aucun des sujets du roi, car nous nous réunissions paisiblement et tranquillement, sans armes, et je ne croyais pas qu'on pût produire quelqu'un qui puisse dire en vérité qu'il avait été terrifié par notre réunion. De plus, je leur dis que nous n'étions qu'en voyage de retour, et je rapportai les circonstances comme auparavant. Quant aux serments, j'expliquai pourquoi je ne pouvais les prêter, puisque le Christ a interdit tout serment, et ce que je pouvais dire ou signer à leur place, comme je l'avais déjà fait. Pourtant, ils firent lire les serments devant moi, puis lurent un acte d'accusation qu'ils avaient préparé à l'avance, un jury étant également prêt. Quand l'acte d'accusation fut lu, le juge me demanda si j'étais coupable. Je dis que non, que c'était un grand amas de mensonges, ce que je montrai et prouvai au juge sur plusieurs points, lui demandant s'il ne savait pas en sa conscience que c'était des mensonges. Il dit que c'était leur formule, je dis que ce n'était pas une formule véritable, il me demanda encore si j'étais coupable. Je lui dis que non, que je n'étais coupable ni du fond ni de la forme, car j'étais contre le pape et la papauté, et je reconnaissais cela et le signerais. Puis le juge dit au jury ce qu'il devait dire et faire, et ce qu'il devait écrire au dos de l'acte d'accusation, et ils firent comme il avait dit. Mais avant que le jury ne rende son verdict, je lui dis que c'était pour l'amour du Christ et en obéissance à son commandement et à celui de l'apôtre Jacques que je ne pouvais jurer. Prenez donc garde à ce que vous faites, dis-je, car vous serez tous amenés devant son tribunal. Le juge dit, c'est gronder le jury. Je dis, si confesser le Christ, notre Seigneur et Sauveur, et obéir à son commandement est appelé gronder par un juge dans un tribunal, il est de peu d'utilité que je dise davantage parmi vous. Toutefois, vous verrez que je suis chrétien, et je ferai paraître le christianisme, et mon innocence sera manifeste. Alors le geôlier me conduisit hors du tribunal, et le peuple fut généralement touché, comme s'il avait été dans une réunion. Peu après, on me ramena, et le jury retint la charge contre moi, que j'examinai. On me demanda alors de fournir caution jusqu'aux prochaines sessions, et le fils du geôlier offrit de se porter garant pour moi. Mais je l'en empêchai, et avertis les amis de ne pas s'en mêler, car je leur dis qu'il y avait là un piège. Toutefois, je dis au juge de paix que je pouvais promettre de comparaître si le Seigneur me donnait santé et force, et si j'étais en liberté. Quelques juges de paix étaient bienveillants et auraient voulu empêcher les autres de m'inculper ou de me proposer le serment, mais le juge Street, président, dit qu'il fallait procéder selon la loi. Ainsi je fus renvoyé en prison. Pourtant, dans les 2 heures qui suivirent, Grâce à la modération de certains juges de paix, on me rendit ma liberté jusqu'aux prochaines sessions trimestrielles. Ces juges modérés, dit-on, demandèrent au juge Pock d'écrire au roi pour ma liberté, ou pour un non-lieu, parce qu'il était convaincu que je n'étais pas une personne dangereuse, comme on l'avait prétendu. Il promit, dit-on, de le faire, mais ne le fit pas. Après avoir obtenu une copie de l'acte d'accusation, je partis pour Londres, visitant les amis en chemin. Quand j'y arrivai, certains, désireux de me soustraire aux mains de ces juges de paix envieux qui cherchaient à me frapper de prémunir à Worcester, voulurent intervenir de nouveau et me faire comparaître devant les juges du banc du roi. En conséquence, je fus de nouveau amené par un habeas corpus devant eux. Je leur présentai un écrit contenant ce que je pouvais dire à la place des serments d'allégeance et de suprématie, ainsi qu'il suit. Je déclare ceci dans la vérité en la présence de Dieu, que le roi Charlie est le roi légitime de ce royaume et de tous ses autres domaines, qu'il a été ramené et établi roi sur ce royaume par la puissance de Dieu, et je n'ai pour lui et pour tous ses sujets que de l'amour et de la bienveillance, et je désire sa prospérité et son bien éternel. J'abhorre et nie absolument la puissance et la suprématie du pape, ainsi que toutes ses superstitions et inventions idolâtres, et j'affirme qu'il n'a aucun pouvoir d'absoudre du péché. J'abhorre et déteste qu'il fasse assassiner des princes ou d'autres personnes par des complots ou des machinations. Et de même, je nie tous complots et machinations, et les comploteurs et machinateurs contre le roi et ses sujets, sachant que ce sont des œuvres des ténèbres, les fruits d'un mauvais esprit, contre la paix du royaume, et non de l'esprit de Dieu, dont le fruit est l'amour. Je n'ose prêter serment, parce que cela est interdit par le Christ et l'apôtre, mais si je romps mon oui ou mon non, que je subisse la même peine que ceux qui rompent leur serment. George Fox, mais comme l'affaire avait déjà été portée si loin à Worcester, ils ne voulurent pas s'en mêler et me laissèrent à comparaître de nouveau devant les juges de paix aux prochaines sessions générales trimestrielles à Worcester. Retour suivant.